une banalité, c'est de dire que la Corse est une île française, effectivement, depuis 1769. Bon, en même temps, ce rattachement tardif et l'insularité expliquent sans doute le maintien d'une culture corse, d'une identité très forte, qui a des répercussions sans aucun doute, enfin c'était ça notre hypothèse, sur l'enseignement et sur la façon dont les élèves, dont on voit l'histoire, que ce soit l'histoire de France ou l'histoire de Corse. Avec un contexte un petit peu particulier qui est le fait que depuis 2002, et ça a été fortement renforcé en 2007 et c'est en phase de généralisation, s'est développé en Corse un enseignement obligatoire de la langue et culture corse. Une volonté de développer, non seulement dans l'école, mais dans la société civile, le développement du bilinguisme. Donc, il est bien évident que cela doit avoir, enfin, pas où est la poule et où est l'œuf, mais enfin, il y a un lien très, 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 très fort. Il doit y avoir quand même des éléments qui jouent pour expliquer sans aucun doute la prise en compte dans nos récits d'éléments qui renvoient au passé de la Corse. Donc c'était un petit peu ça notre hypothèse de départ. Alors le dispositif, on en a un tout petit peu parlé ce matin, donc je vais simplement préciser deux petites choses. Dans le cas de la Corse, donc on a effectivement fait la collecte de deux types de récits, raconte l'histoire de France ou raconte l'histoire du pays. Ces deux récits ont été collectés dans des classes en même temps, c'est-à-dire que la moitié de la classe se voyait proposer raconte l'histoire de France. Et l'autre moitié raconte l'histoire du pays de façon complètement aléatoire. Et si un élève nous disait « Non, moi je veux l'autre papier, non, tu as celui-là, tu te débrouilles. » C'était comme ça. Cette collecte de corpus a une autre caractéristique, c'est qu'elle a été faite plus tardivement que dans les autres régions, parce que la Corse est rentrée plus tard dans la recherche. Bon, moi, je suis une transfuge, je dépends de CP Lyon 2, mais pour des raisons identitaires et personnelles, je me suis faite adopter par Lisa pour cette recherche. Donc, la collecte a été faite au printemps 2012. Il a fallu faire très vite. Donc, ce sont les membres de l'équipe qui, eux-mêmes, sont allés dans les classes pour faire la collecte. Donc, si vous voulez, ça modifie un petit peu la façon dont les élèves ont pu peut-être recevoir la consigne. Et en particulier, le fait que ce n'était ni leur professeur d'histoire, ni leur professeur de français, ni le CPE, mais c'était des extérieurs et des chercheurs, comme disait tout à l'heure Christelle, madame la sociologue. Bon, moi, j'ai pas eu ce type de réaction. Enfin, voilà, c'était ça. Donc, voilà un petit peu deuxième spécificité, c'est que en raison de l'urgence dans laquelle nous avons travaillé, le corpus n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que le corpus général. Si vous regardez là ici le nombre total de récits de collège et le nombre total de récits de lycée, vous voyez que c'est exactement inversé. C'est-à-dire que nous avons plus de récits collège que de récits lycée. Faut dire qu'un des grands lycées corse nous a fait faux bond au moment où on allait faire la collecte, et après c'était trop tard, à la rentrée, c'était plus possible. Donc voilà, il y a ce petit problème qui fait que 128 récits sur le lycée face à 534, ça peut poser problème. Alors, les caractéristiques, là je n'ai pas repris les caractéristiques que nous donnaient les collègues qui étaient enseignants dans ces classes, mais j'ai repris les caractéristiques en fonction de ce que nous dit l'INSEE en 2010 sur la Corse. Donc ce que j'appelle moi collège urbain, ce sont les lycées d'ailleurs, ce sont les établissements qui sont dans les deux unités urbaines corse, c'est-à-dire Ajaccio, Bastia, qui font l'une 82 000 habitants et l'autre 103 000 Ajaccio. Pour le reste, on a des communes. La troisième commune de Corse, c'est Portovesme, qu'elle fait 11 000 habitants. La suivante, c'est une commune périurbaine de Bastia qui fait 7 000 habitants. Hein. Donc, pour cette raison, deux collèges urbains de centre-ville, un collège périurbain qui recrute dans un milieu populaire, dans les milieux plutôt populaires, et 5 collèges ruraux. Mais dans ces collèges ruraux, bon, normalement, on a dit qu'on disait pas trop le nom des établissements, mais il y a, par exemple, le collège de Bonifacio, celui de Sartène, qui sont à l'échelle de la Corse, au niveau des fonctions, qui ont des caractéristiques de petites villes. Voilà, c'est pour caler un petit peu les choses. Pour les lycées, bien un lycée de recrutement rural. On a quand même réussi à récolter 95 récits. Un lycée professionnel de type EREA, très peu de copies, 13. Et un lycée, un des deux lycées agricoles de Corse, avec 20 élèves qui ont été sollicités. Ces lycées agricoles ont une caractéristique, c'est qu'ils ont des formations qui sont liées aux des sections forestières, élevage, enfin des choses comme ça, et que très souvent on y envoie, y vont des élèves qui ont vraiment l'ambition de, l'intention de rester en Corse et de ne pas partir. Bon, voilà. Donc, on s'est dit que ça voulait peut-être dire une certaine façon d'appréhender le territoire. Bon, puis ce sont aussi des élèves qui ne sont pas forcément, comme dans tous les lycées professionnels, en facilité avec l'école. Bon, la notion de territoire, moi, j'ai pas pris les Villusseaux, j'ai pris Brunet. Et de façon très simple, pour moi, territoire, c'est sentiment d'appartenance. Je suis de là. Sentiment d'appropriation, c'est à moi, c'est mon domaine. Bon, je fais une distinction très forte entre les récits de collège et les récits de lycée, parce qu'il y a vraiment de grosses différences et qui vont être importantes pour comprendre un petit peu les choses. Alors, au collège, dans ces récits... Ah oui, donc oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans mes récits, récits histoire de Corse ou histoire de France, en fait, quand on leur a posé la question histoire de Corse, certains ont répondu histoire de France. Et quand on leur a posé la question histoire de France, certains ont répondu histoire de Corse. Bon, donc c'est tout, et c'est à peu près un petit peu mélangé. Donc là, dans un premier temps, pour ce premier travail, je n'ai pas fait de distinction entre les deux types de récits. J'ai essayé tout simplement de voir comment cette notion de territoire et comment les références à l'histoire, et je mets beaucoup de guillemets sur la notion d'histoire, de Corse, se retrouvent dans tous les récits. Bon, première idée au collège, la Corse fait partie de la France, de l'Europe. Elle est en Méditerranée, mais elle est à part. Tout à l'heure, Eglantine a montré un récit où il y avait la Corse sur la guerre. On est tout à fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il y a la Corse, il y a la France, on est français, mais en même temps, on n'est pas les mêmes. Il y a la Corse et la France. Cette Corse, elle fait partie de la France, donc voilà ce que je trouve dans des récits. En haut à droite, il y a l'Europe, en bas la Corse qui fait partie de la France. C'est classique. La Corse est une île de la mer Méditerranée, elle fait partie de la France, de l'Union européenne. En France, la Corse est très connue. Voilà, ce va-et-vient entre les deux, mais en même temps, on n'emboîte pas. Il n'est pas question d'emboîter. Et un troisième personnage, entre guillemets, apparaît, c'est la mer Méditerranée, qui est là. Deuxième élément, collage, hein, la Corse est la tectonique des plaques. La Corse est détachée de la France. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu des problèmes sismiques. Et à un moment, la Corse, la France et la Corse se sont détachés. Alors, un élève dit qu'on s'est même détaché de l'Italie. Mais bon, ça, c'est à vérifier. Je ne sais pas. C'est une fois. Donc, cette espèce de va-et-vient entre Corse, France, France, Corse, c'est assez... Bon, la Corse n'a pas toujours été française. Alors elle a été habitée un peu par différents peuples, hein. Il y a les Italiens. Alors les Italiens, c'est générique, hein. Les Génois, ils sont Italiens. C'est aussi les chemises noires. Enfin, c'est les Italiens. L'Italie, quasiment de toute éternité. Les Grecs. Alors les Grecs, c'est relatif à la fondation par les Grecs d'Alalia. Et d'ailleurs, ce sont les Phocéens qui fondent Alalia et qui ensuite vont fonder Marseille. Bon, c'est là aussi, hein, c'est pas en quantité énorme, mais enfin, c'est quelque chose qui se trouve. La Corse a appartenu à plusieurs pays différents, car elle était au carrefour entre l'Afrique, la France, l'Italie, l'Espagne, et était donc très pratique pour faire la guerre aux pays qui l'entourent. Donc là, celui-là, c'est le seul, hein. Mais c'est aussi original parce que ça montre une espèce de position géostratégique de la Corse qui n'est pas complètement idiote et qui aurait tout à fait l'accord de Napoléon. Ou d'autres grands stratèges. Alors ça, la Corse, mon pays, je l'aime. Et là, on est dans quelque chose de très patrimonial. Je pense que c'est une île magnifique. Il y a de beaux paysages. Il y a une nature qui n'est pas polluée, alors que la France est polluée. Et puis, il y a tout. Il y a la plage, il y a la montagne, il y a le maquis. Voilà, donc c'est un paysage. Donc c'est une espèce de patrimonialisation au niveau territorial de l'île. C'est mon pays et c'est l'île où je vis. Ça, c'est très très fort, ce sentiment d'appropriation, d'appropriation pour l'espace corse. Qu'on trouve au collège, hein, j'insiste bien là-dessus. Alors, c'est pas là non plus majoritaire, mais bon, majoritaire, il faudrait le récit majoritaire, c'est plutôt le récit plutôt français. Alors, ça m'amène à faire une petite aparté sur la notion de pays. Alors, pays, je vais pas vous faire un cours de Corse, mais pays en Corse, ça se dit paès. Et paès, si je prends n'importe quel dictionnaire, paès, c'est aussi le village. Donc c'est aussi le petit pays, en quelque sorte. D'ailleurs, dans le dictionnaire, paès, c'est traduction pays-village. Et si on prend le mot paysanne, ça veut dire le concitoyen, le paysan, le villageois. Concitoyen, paysan, villageois. Donc, quand on dit le pays, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le village. Et plusieurs fois, dans des récits, on a des indications du village. Hein, Bastelica au Mio Baez, c'est mon village. À chacun son village. Et cette référence au village est beaucoup plus forte dans les collèges urbains. Un petit peu comme s'ils avaient besoin de se raccrocher à leur identité villageoise, à un village dans lequel ils ne vivent plus. Et le fait d'avoir un village, c'est un petit peu comme si c'est le fait d'affirmer son identité corse. Celui qui vit à Ajaccio ou à Bastia, qui n'a pas de village, c'est un continental. C'est clair. Enfin, je le vois comme ça. Et c'est un petit peu ce qui semblait. Un territoire très patrimonialisé, des sites, des monuments, des traditions. Bon, alors on nous parle des tours génoises, les musées, les monuments locaux. Et très souvent, ces musées, ces monuments locaux qui sont cités, ils sont précisément cités. Et on cite celui du village dans lequel est l'établissement. C'est-à-dire que Bonifacio, ben, ça sera les escaliers du roi d'Aragon. Ajaccio, ça sera la statue de Napoléon sur la place du Diamant. Enfin bon, voilà. Et puis, des traditions, c'est-à-dire... des traditions, une Corse traditionnelle, essentiellement rurale. Alors j'ai eu des références aux broches, aux bergeries, aux processions religieuses. Donc une espèce de culture traditionnelle qui ressort. Alors est-ce qu'on peut parler de pays-État, puisqu'on y retrouve effectivement quelques symboles. J'ai trouvé 6 mentions du drapeau, 2 mentions de l'hymne corse, et même une mention de la monnaie qui avait frappé Pascal Paoli. Là, j'étais très étonnée que l'élève le sache, et effectivement, ça existe, ça a bien existé. C'est le Tseka de Murato, qui a existé pendant très peu de temps. Alors, pays-État, j'en suis pas bien sûr, parce que le drapeau, c'est une forme d'affirmation de l'identité corse, quand on est quelque part... On va écouter un chanteur corse, on sort les drapeaux, l'hymne aussi, on la chante dans des tas de circonstances. Mais bon, voilà, pays-État, mon avis, ce que j'ai vu au collège. Au lycée, disparition du cadre, de ce cadre affectif et un discours beaucoup plus politique, où on est sur la France sans territorialisation, mais sans aucune territorialisation, il n'y a pas d'espace. Où on est vraiment sur la Corse. J'ai 12... Alors, le mot territoire même, 12 références au territoire. Le mot territoire est prononcé 12 fois. Et 7 fois seulement, 7 fois concerne la Corse. Et j'ai essayé de mesurer les occurrences relatives à notre pays ou au nous. Il n'y en a presque pas. Aucun lieu patrimonial et aucune référence au fameux village. Donc, quelque chose de plus tranché ou carrément un discours très français... C'est la France, c'est même majoritaire, et dans ces là ça sera à creuser. J'ai pas vraiment creusé, mais il semblerait que ça corresponde peut-être plus à des connaissances acquises en classe, d'après ce qu'ils disent dans les l'origine de leur savoir, et puis à un discours carrément corse. Les personnages et les épisodes célèbres. Alors, les personnages... Alors, je sais bien que Napoléon n'est pas majoritaire au niveau national, mais en Corse, il y a très peu de personnages, et comme l'a dit... très peu d'événements, comme l'a dit aussi Eglantine en parlant de la guerre. Si je prends les occurrences concernant Napoléon, au collège, Napoléon passe avant Pascal Paoli. Alors, 135 mentions, ça veut dire 25,8% des récits nous citent Napoléon, alors que Pascal Paoli n'est là que 42 fois, ce qui fait à peu près un peu moins de 8%. Napoléon rattache la Corse à la France. Napoléon est né en Corse, il se fait nommer empereur et possède presque toute l'Europe. La société française est inventée par un Corse, Napoléon, bien sûr. Napoléon a conquis la France, donc c'est une façon d'affirmer le lien avec la France et c'est une façon d'affirmer aussi que la Corse a apporté quelque chose à la France. La Corse, en quelque sorte, oui, elle assure cette grandeur à la France. Il est presque... Et ce Napoléon, ça n'est jamais la Révolution française qui est montrée, ça n'est jamais l'Empire, c'est rarement les mesures prises par Napoléon, c'est Napoléon et la Corse. Donc on peut noter une profonde méconnaissance de l'histoire napoléonienne, ce qui m'a peut-être un tout petit peu étonnée. C'est le second personnage, et là j'utilise le terme héros comme l'a défini Laurence, c'est Pascal Paoli. Alors, sous ces deux écritures, Pascal Paoli ou Pasquale Paoli en Corse, ça dépend un petit peu. Et il est toujours, souvent, on va dire, associé à la fameuse bataille de Ponteno dont a parlé Églantine. On ignore complètement la période à laquelle il vit. On sait quelque chose. Il a une statue à Corté. Il a fondé l'université. Il a fait la première constitution. Il a même mis en place l'égalité homme-femme pour la Corse. Bon, c'est donc une histoire complètement... C'est même pas de l'histoire. C'est du mythe. C'est quasiment du mythe. On ne connaît rien de ce que de l'histoire. On connaît juste cette période, un tout petit peu cette période de l'indépendance et de Ponteno. Rien sur les problèmes, les rivalités, les questions, les débats, les guerres intestines au moment de la convention entre les paolistes et les bonapartistes. C'est vraiment très centré sur cette époque-là. Pour les autres personnages corses, eh bien, quasiment rien. Et là, ça m'a beaucoup étonnée. Une mention du roi Théodore. Alors, le roi Théodore, il a été roi quelques mois en 1736. Une mention. Moi, je pensais que des personnages comme Sampiero Corso, le condottiere du XVIe, auraient été cités. Presque pas. Et là aussi, quand ces personnages, ou Sampiero, ou Sambucci d'Alando, qui est un petit chef d'une révolte féodale du XIVe siècle, sont cités, ils sont toujours cités par référence au village. Bastelica, mon village, la patrie, le village de Sampiero Corso. Voilà, c'est une Corse très peu personnifiée. Sur les 198 récits comportant la notion de Corse, 15 la présentent comme un personnage, ce qui fait quand même relativement peu. Alors c'est lié à Ponteno. La Corse a battu la France a battu la Corse, entre Ponteno et Borgo, enfin une espèce de petite salade là, pas très claire. La Corse et les Corses ne sont là pas non plus des personnages. Bon, alors la grande bataille, c'est la fameuse bataille de Ponteno, très peu quand même, hein, 2,8% des récits, ce qui fait très peu, mais c'est le seul épisode qui est cité et qui est associé à Pascal Paoli. Cet épisode est très mal connu. Certains élèves de collège considèrent même que c'est les Corses qui ont gagné. Bien sûr que non. On peut être aussi complètement dans le mythe. Donc j'ai pris trois. Alors il n'y a que trois occurrences, mais un mythe qui se retrouve, qui existe en Corse, c'est à la suite de la défaite des Corses. Eh bien, il y a eu tellement de Corses morts que le fleuve au bord de laquelle a eu lieu cette bataille, le Golo, charrie le sang des soldats corses pendant la bataille. Je l'ai trouvé trois fois, ce qui n'est pas énorme, mais je voulais vous montrer quelque chose. C'est une bande dessinée. Alors cette bande dessinée, elle est de Frédéric Bertocchini, qui est un journaliste, historien, scénariste, qui a publié une série de bandes dessinées sur justement la bataille de Ponteno en Corse et en français. Donc ça se trouve dans tous les supermarchés, hein. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était la légende. Donc, le petit berger qui dit à sa mère, « Oh, maman, le golo saigne. » Et la mère qui répond, bon, aux Vierges Marie. Le berger qui et ensuite, elle répond, « Non, mon fils, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le fleuve qui saigne, mais c'est notre patrie. » Vous voyez, c'est un petit peu ce que... Et alors, suite, un berger... Un berger raconte que plusieurs mois après la bataille de Ponteno, le pont était toujours rouge de tout le sang des Corses morts. Donc, pourquoi j'ai pris ça? Pour montrer que on voit apparaître quand même dans ces récits une forme non pas de mémoire, mais même de mythification de certains épisodes bien ciblés de l'histoire corse. Pour le lycée, Pascal Paoli, Napoléon est aussi... apparaît dans 22% des récits, ce qui est quand même pas mal. Mais dans 25% de ces récits sur 29, il est associé uniquement au Panthéon français et la Corse n'apparaît pas du tout. Donc Napoléon au lycée devient le personnage français. Pascal Paoli, lui, est carrément le héros de la Corse indépendante. C'est-à-dire qu'il est associé à la bataille de Ponteno, et cette bataille de Ponteno, c'est l'échec de l'indépendance de la Corse. Donc avec un discours différent de celui du collège où on voit une espèce de mémorialisation plus poussée de cet épisode. Le peuple, quatre mentions, ce qui est très peu. Donc est-ce que on se trouverait ici en face d'un discours plus politique au lycée? C'est une hypothèse de travail. Alors moi j'ai quand même voulu noter les absents. Alors les absents, première absence de taille pour parler d'histoire, pas de date, pas de périodisation. Encore moins que dans les récits français. Une mémoire, et une mémoire très sélective. C'est-à-dire que c'est la mémoire de Ponteno, c'est la mémoire de certains héros, de certains épisodes d'une espèce de Corse un petit peu indépendante, mais par contre, rien sur la Seconde Guerre mondiale. Or, la Seconde Guerre mondiale, où là aussi, il y a, avec de grands absents, des personnages comme Fred Scamaron, et c'est le Jean Moulin Corse quand même, Jean Nicole, il y a un bateau qui s'appelle le Jean Nicole, c'est un instituteur résistant. Rien. Alors, effectivement, cet épisode de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance corse, il faudrait l'associer à la résistance communiste qui a été très importante, donc à la France. Alors que, du point de vue de la société civile, on a une volonté de commémoration et des documents qui existent. Et là, c'est absolument absent. Et moi, je tenais absolument à faire le recueil de données dans une région où la résistance a été très importante. C'est la région de Sartène. Et je n'ai eu aucune mention de la résistance dans une région qui a été, de cette résistance, est sortie une municipalité communiste pendant plus de 40 ans. Et aucune mention, quelque chose qui n'existe pas. Donc, quelques propos très provisoires, une prégnance mémorielle plus que de l'histoire, c'est de la mémoire, et c'est encore une mémoire, c'est une mémoire collective, vivante, qui renvoie à la culture traditionnelle, un petit peu cette culture rurale, traditionnelle, le souvenir d'une société qui risque de disparaître, qu'on veut garder, l'attachement à un pays, à une langue, à des traditions, une identité très forte, qui se transmet, mais en même temps une appartenance à la France importante. Et puis, ce que je vois émerger, c'est l'émergence d'une mémoire, ce que Ricoeur appelle une mémoire manipulée, que l'on trouve à travers l'exemple de Pascal Paoli, c'est-à-dire une mémoire politisée. Ces thèmes, on les retrouve dans les discours nationalistes, on les retrouve dans les commémorations qui sont faites le 8 mai. On a commémoré la bataille de Ponteno, mais comme tous les ans, cette année, à Ponteno, avec des récits. On est tout à fait dans cette optique-là. Et puis une autre mémoire, une mémoire obligée, qui n'apparaît que lorsqu'elle se confond avec cette mémoire manipulée. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, Ponteno, Il y a une commémoration qui n'est pas laissée qu'aux seuls nationalistes. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'en 2007, on a commémoré la mort de Pascal Paul, eh bien, les autorités politiques étaient là. Une messe officielle a été dite. Et donc là, il y a une alors que lorsque s'il n'y a pas cette mémoire obligée, cette volonté de commémoration qui existe pour la Seconde Guerre mondiale, on commémore certains épisodes de la résistance. Ça n'apparaît pas du tout dans les récits. Donc la question que je me pose, question à l'enseignement, comment expliquer cette différence entre les lycées et les collèges? Deux hypothèses. Première hypothèse, l'effet de la généralisation de l'enseignement de la langue et culture corse en primaire. Bon, nos élèves de 6e qu'on a interrogés en 2012, ils étaient dans cette politique, ils étaient dans ce dispositif-là, alors que nos élèves de seconde n'ont pas connu cet enseignement. Donc est-ce que c'est lié à ça? C'est possible, je ne sais pas. Deuxième possibilité, aussi le décalage... Le fait que le décalage en âge. Donc pour vérifier cette hypothèse-là, il faudrait refaire des entretiens lorsque nos élèves de 6e arriveront en seconde, c'est-à-dire en 2016. Moi, je ne vois pas comment répondre à cette question. Enfin, je m'adresse au responsable du LISA. Je pense que ça serait une solution possible. Donc ça permettrait de répondre éventuellement aux discours politiques différents selon l'âge des élèves, qui est une hypothèse très forte. Deuxième chose qui me semble importante, c'est face à l'ignorance de l'histoire de la Corse et au développement de cette histoire mythique et de la reprise en compte de cette mémoire manipulée, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire de la Corse? Je ne sais pas sous quelle forme. Ça se fait à La Réunion. Il y a un programme obligatoire. Je ne sais pas. Ou dans le cadre des cours de langue et culture corse, ou dans une heure d'histoire, je ne sais pas de quelle façon. Alors, en sachant que la question a été posée, existe, il existe des ressources. Elle a même été posée par les professeurs, enfin tu confirmeras, par les professeurs d'histoire et par l'inspection générale d'histoire, oui. Puisqu'il existe, publié par le CRDP, deux manuels. Un manuel qui s'appelle 50 documents pour enseigner l'histoire et un qui s'appelle 50 documents pour enseigner la géographie. Avec une préface, ils ont sorti en 2006 avec une préface de Bruno Mélina. Donc, il y a bien l'inspection générale qui était dans l'affaire et c'était bien, ça vient bien de la corporation des professeurs d'histoire. Simplement, là, on est dans le cadre d'une démarche un petit peu inductive, c'est-à-dire ces documents, c'est donner un exemple concernant la Corse dans le cadre du programme français, et c'est quand même très sélectif, c'est-à-dire que des épisodes spécifiques de l'histoire de Corse ne sont pas pris en compte. Donc, bon, mais n'empêche que ces ressources, elles existent. Il y a aussi des vidéos patrimoniales qui montrent des aspects patrimoniaux qui sont publiés par le CRDP. Alors, la question... Question subsidiaire, qui doit enseigner cette histoire de la Corse? Est-ce les professeurs de langue et culture corse ou est-ce les professeurs d'histoire-géographie? Je n'ose pas vous donner mon avis personnel.
Si.
Si, je suis professeur d'histoire, je suis corse, je pense que c'est au professeur d'histoire de le faire. Voilà.